Connaissant le conférencier depuis longtemps, je peux vous dire qu'il ne m'a pas trop étonné d'aller en Corée du Nord, investiguer et faire son métier de reporter. Parce que quelque part, il nous a rapporté plus qu'un message. Il a écrit un livre qui est là. C'est ma Bible du jour. Et j'aime cette première en tête qui, quelque part, le caractérise et qui va sûrement caractériser l'écoute de sa conférence, d'une part, et d'autre part, le débat qui va suivre, je n'en doute pas. Donc, cet encart est important et il est intitulé « D'abord, voir ». Je pense qu'effectivement, par rapport à ce pays, ô combien dénigré, « D'abord, voir », c'est important. Je suis le premier à être très curieux de l'apport qu'il va nous donner sur ce pays, si vilipendé par ailleurs. Claude, quand tu veux.
Eh bien, je veux. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Bonsoir à vous. Et c'est vrai que le sujet Corée du Nord, l'homme maître de son destin peut... interroger, interpeller, c'est vrai. Alors, l'homme maître de son destin, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit préambule. C'est vrai que c'est un sujet intéressant qui ne peut que motiver l'humanité. Alors, celle qui n'en finit pas de décider et d'agir, mais pas toujours dans le bon sens, parfois contre nature même, partant du principe que l'homme est maître de l'univers. Et mise en somme sur sa capacité à jouer sans risque les apprentis sorciers. Et puis il y a l'autre humanité qui, au contraire, s'inquiète pour son futur. Alors je pense à la jeunesse consciente, notamment, tout comme les vieux sages, voilà, enfin, eu égard aux atteintes constantes faites à la nature, à l'environnement, à l'humanité elle-même. Et puis il y a l'humanité qui est indifférente à toutes ces grandes questions philosophiques, sociétales et politiques. Ne manque pas de s'indigner quand ça lui tombe dessus, face à une atteinte faite à ses biens ou à ses proches, via un violent coup de vent, le retour du choléra ou de la rougeole, la hausse de la délinquance, l'ingurgitation d'un produit alimentaire toxique, voire son intégrité bafouée, bousculée, pire, molestée. L'humanité n'est pas un état à subir, c'est une dignité à conquérir. Alors je fais volontiers mien le propos de Vercors, l'écrivain résistant face aux nazis, à qui l'on doit entre autres le silence de la mer. La réflexion de Vercors met le doigt sur le mouvement que doit nécessairement impulser une telle vision, une telle conception de son passage sur Terre, refusant le fatalisme, la faiblesse, l'abandon. Tant les pistes de découverte de soi-même et de l'amélioration de la société sont grandes. Et nous sommes ici pour vivre cette réflexion. En 1947, Vercors écrit dans l'ouvrage collectif « L'heure du choix », qui est paru aux éditions de Minuit, un texte intitulé « La fin et les moyens ». Je cite « Ce qui aide encore les hommes à vivre au sein de ce monde misérable » où les intérêts du grand capital ne cachent même plus combien ils sont à la fois démesurés et sordides, combien ils se moquent de l'avenir des peuples et de la vie humaine, c'est de savoir que ce n'est pas immuable. S'il fallait croire, il continue, que ce ne fut obtenu qu'au prix de tout ce qu'il vaut de vivre, s'il fallait croire que les peuples n'ont plus d'autre choix que d'accepter le monde tel qu'il est, ce monde atroce et stupide, ou de se résigner à lentement devenir entre les mains du médecin de leurs rêves que la lutte aurait corrompu, une pourrissante charogne, alors il ne resterait qu'à se couvrir la tête de cendres et prier qu'une miséricordieuse bombe nucléaire veuille bien mettre fin à ce monde sinistre. Vercors, en 1947. Le questionnement mérite l'attention. Au nom ne serait-ce que de cette dignité à toujours conquérir, car 72 ans plus tard, aujourd'hui donc, le propos résonne encore. Il surprendra, et c'est peut-être tout l'intérêt du rendez-vous et du débat de ce soir, qu'un tel projet soit relié à la Corée du Nord, le royaume ermite, si décrié et montré du doigt, pour le moins caricaturé. Je m'attelle donc à l'exercice périlleux. Mais ne sommes-nous là pas ici pour découvrir, c'est le propre de ce lieu, des territoires inconnus, les nôtres et ceux qui nous entourent. Alors cette conférence ne s'improvise pas, elle est le fruit de mon engagement professionnel, comme ça a été dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire regarder le monde, l'observer, en rendre compte au-delà des géocaricatures qui sont trop souvent le fait du système médiatique. Et je me suis déjà exprimé sur ce sujet dans l'ouvrage « Grand reporter, le pas de côté ». Pour cela, il faut aller voir, effectivement, prendre le risque de perturber des certitudes ancrées, des visions souvent nombrilistes, le système médiatique occidental regardant le monde souvent à travers lui-même, sans remise en cause de ses propres mécaniques, mettant trop souvent en scène des faits bruts sans les resituer dans leur contexte local, culturel, historique. Or, ne regarder qu'en 3D, oubliant la quatrième dimension, celle du temps, ne peut à mon sens que ruiner l'essence même du métier de journaliste, à savoir apporter des éléments d'information et non une vérité. À chacun, lecteur, auditeur, téléspectateur, de se la faire. Le journaliste doit donc aller voir, et un peu plus, se documenter, diversifier ses sources d'information et compter, rapporter, reporter. Y compris et surtout les trous noirs de l'information qui ont encore plus de sens quel que soit l'endroit de la planète à l'heure de la mondialisation, de la globalisation. Aucun sujet n'est tabou. Aucun sujet n'est davantage totem. C'est un homme à l'esprit libre, indépendant, neutre, honnête, que j'ai fait le choix de me rendre en Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée, puisque tel est son nom. Alors j'ai bien à mes propres frais, pour que les choses soient dites, je n'ai pas été invité par M. Kim Jong-un. Et même si ce fut compliqué, parce qu'il m'a fallu près de 3 ans pour obtenir le visa, du fait de la méfiance, on peut le comprendre, des Nord-Coréens par rapport à une presse occidentale qui charge souvent ce pays, mais aussi d'un étonnement, parfois un rien méprisant, de mes collègues du système médiatique, parce qu'on peut être accusé d'être propagandiste ou un peu trop angélique par rapport à cette nation, ce que je ne suis pas, vous le verrez. Donc il en est sorti un ouvrage, Corée du Nord, l'autre dimension, le titre est important, qui est prétexte à débat comme celui d'aujourd'hui, et j'en ai déjà fait quelques-uns, à travers la France, et je peux dire que la curiosité est éveillée et que le débat s'ouvre avec intérêt. Car aller voir et un peu plus, c'est aussi échanger avec des acteurs présents sur le terrain depuis de longues années. Vous imaginez bien que mon séjour, qui a été de 11 jours en Corée du Nord, je suis d'une franchise absolue, a été complété par une enquête, par des travaux d'investigation, auprès notamment d'humanitaires qui sont présents depuis une vingtaine d'années, dont un, Éric Martin, qui a passé 5 ans en Corée du Nord, à Pyongyang, qui est la vitrine du pays, on le verra, mais aussi en province. Et puis des hommes d'affaires qui, comme tous les hommes d'affaires, n'ont pas d'ostracisme par rapport au champ d'action, des scientifiques, des universitaires, des chercheurs. J'en vois un ici, Damien Jamais, qui a fait plusieurs séjours en Corée du Nord. Patrick, qui est sans doute le vétéran d'affaires, puisqu'il en est à sa 10e ou 11e séjour, c'est ça ? Donc la rencontre de tous ces citoyens ouverts au monde m'a permis de me documenter. Alors quoi, ce choix de la Corée du Nord tentait sans doute de répondre à quelques questions fortes, hein, ça a été dit par Jackie. Comment un pays si refermé sur lui vit, tout simplement? Parce qu'il y a un peuple qui vit, il y a des gens comme vous et moi. Quel moteur l'anime et lui permet de survivre dans cet enfermement qui est le sien? En quoi fait-il réellement la différence? Sur ce plan, je n'ai pas été déçu et vous allez voir qu'on peut peut-être aller aux clichés qui sont ceux de souvent mis en avant de l'obscurantisme, de la société féodale, j'ai déjà entendu ça, repliée sur elle-même, d'un état guerrier totalitaire où règne la famine, où certains collègues disent c'est une grande comédie qui s'y jouerait avec des acteurs à tous les coins de rue pour satisfaire leur curiosité. Alors vous imaginez, dans cet ouvrage, il y a 150 photos, c'est un peu ce qui fait son originalité, vous allez en découvrir. Si les gens que j'ai pris en photo étaient tous comédiens, on a tous à apprendre en termes d'art dramatique en Occident. Ça, c'est pas des comédiens d'aujourd'hui. Hein. Alors pour cela, je vous disais, il faut déjà rentrer, chercher cette quatrième dimension. Donc c'est pratiquer une sorte de devoir de mémoire, c'est-à-dire comprendre comment ce pays, quel est ce pays, quel est son passé. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la péninsule coréenne, hein, parce que on est d'accord, là je suis en Corée du Nord, mais l'histoire est celle de cette péninsule qui est divisée, on va y revenir. Alors le premier point, c'est que cette nation, elle ne date pas d'hier, c'est en rien un artifice de dire ça, c'est une nation, le premier royaume date de 5000 ans, hein, donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Mythiquement, il voit le jour au mont Paektu, la Corée du Nord, pour le coup, là, c'est une région de montagne, si on synthétise. Et le mont Paektu, qui est le mont culminant à 2744 mètres d'altitude, qui est frontalier avec la Mandchourie, hein, donc dans ce pays de montagne, et est un mont mythique. Et c'est là où pousse la semence d'une nation, c'est là où elle pense son essor, non sans livrer d'entrée à la postérité Tangun, le petit-fils du ciel. Hein. C'est le légendaire fondateur de la Corée. En capacité de rassembler les tribus plus ou moins hostiles et qui ouvre quelque part la péninsule à la civilisation. Vous verrez, j'assistais à une conférence tout à l'heure de Frédéric Vincent sur le mythique de la tradition ou la tradition mythique. Hein. Vous verrez que le terme de petit-fils du ciel, il est toujours utilisé quasiment aujourd'hui avec les leaders de la Corée du Nord. Donc on est dans cette dimension aussi mythique dans ce pays qui remonte à 5000 ans. Et puis, dire que le premier État unifié des Coréens, en fait, est fondé en 918 après Jésus-Christ, s'appelle le Koryo. Et il réalise quelque part l'unification de la culture et du sang de la nation coréenne. Le deuxième point important, parce que hein, je ne vais pas refaire toute l'histoire, vous voyez, ça c'est par exemple des mausolées qui datent de cette époque. Le deuxième point, c'est que la péninsule coréenne a toujours été l'objet de convoitises des grandes puissances. Et ça, il faut bien avoir ça à l'esprit. On va s'arrêter aux dernières étapes de cette histoire proche qui peuvent éclairer le présent et mieux le comprendre. On parle souvent du royaume ermite par rapport à la dynastie Kim qui, on va dire, dirige, anime le pays depuis 70 ans. Cette expression, elle date du XVIIe siècle. Les Coréens chassent, ça s'appelle la période Joseon, les Coréens chassent les occupants et empêchent tout contact avec les pays étrangers, autre que la Chine mandchoue, dont elle devient le vassal quelque part. C'est la Chine qui est suzeraine. Et donc, cette expression date du XVIIe siècle. Vous voyez que hein, c'est comme si, par exemple, les Vosgiens, je ne sais pas, on faisait référence au peuple. Ça s'est déjà vu d'ailleurs dans la presse, aux Burgondes qui sont venus avec leurs cheveux filasses, etc. J'ai déjà lu ça dans des articles sur, parlant des Vosgiens, au moment de l'affaire Grégory notamment. Puis on assiste au déclin de cette dynastie Joséon régnante. Il y a des révoltes, des luttes internes. Aussi le refus des réformes de la classe dominante, les Ryangban. C'est une caste supérieure dont l'éducation est soumise à l'idéal confucéen. Et vous verrez que le confucianisme est très important pour comprendre aussi comment s'organise aujourd'hui la société nord-coréenne, voire sud-coréenne d'ailleurs. Enfin, la pression croissante des puissances étrangères. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que j'ai appris récemment, c'est que la première expédition punitive en Corée, qui se déroule en 1866, est le fait de Français. J'ai appris ça récemment. Je rappelle les faits rapidement, parce que ça peut être intéressant de s'en souvenir. La France a pénétré en Corée, en fait, par l'intermédiaire de la Société des Missions étrangères de Paris. En 1831, le Vatican crée le vicariat apostolique de Corée, mais le prosélytisme catholique irrite les dirigeants de l'époque. S'ensuit une campagne d'élimination des catholiques dont la doctrine est jugée perverse. Bon. Alors, il y a déjà trois missionnaires qui sont décapités en 1839, et puis en 1866, une nouvelle répression contre les catholiques est menée, et là, on a à peu près 10 000 personnes qui sont exécutées. Alors, en représailles, expédition punitive du contre-amiral Pierre-Gustave Rose, en 1866, qui est la première action militaire d'une nation occidentale, en fait. Au programme, le pillage du monastère de l'île de Ganghwa, d'où proviennent 297 manuscrits, des livres imprimés, qui sont depuis conservés à la Bibliothèque nationale de France. Le butin comporte également des drapeaux, des canons, des fusils, des caisses de lingots d'argent, de lagues, de jade. Et le 11 novembre, le bombardement de Séoul aboutit à la libération de deux missionnaires français. Vous voyez que quand on regarde un peu les événements qui se passent aujourd'hui, on peut faire aussi une corrélation hein, sur cet interventionnisme en fait, qui libère des citoyens français. Mais cette libération est suivie d'un repli des Français, de l'armée française, et qui va être rapidement transformée par les Coréens en triomphe. Une petite nation vassale était apparemment arrivé à repousser l'attaque d'une puissance étrangère, chose que n'avait pas pu faire la Chine suzeraine. Ce qui ne fit que renforcer la détermination des Coréens à refuser le contact avec l'étranger. Donc ça, c'est il y a plus d'un siècle. L'affaire est loin d'être finie via une succession de guerres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail dont la Corée est victime. En fait, parce que les puissances étrangères veulent la contrôler. La première, c'est la guerre sino-japonaise de 1894 à 1895, qui oppose donc la Chine au Japon. Puis s'ensuit la guerre russo-japonaise, qui a lieu essentiellement en Corée et en Mandchourie. Alors là, le Japon victorieux en profite pour faire reconnaître sa domination en Corée. Un traité de protectorat, dit Dolsa. Dolsa, c'est le serpent de bois. Et ratifié en 1905 sous contrainte nippone par l'empereur Kojong. Et là, on arrive à 1907, c'est une date importante, c'est la conférence internationale à La Haye. Il y avait déjà des conférences internationales dans cette ville où doit être scellé, entre autres, l'avenir de la péninsule, mais sans représentant coréen. C'est étonnant, la communauté internationale décide du sort d'un pays sans accepter la représentation de délégués coréens. L'empereur en envoie trois, Et il y en a un qui s'immole à La Haye parce qu'ils n'ont pas été acceptés à la conférence. Et là, les choses s'accélèrent parce que suite à cette non-reconnaissance, la population coréenne hostile aux Japonais s'active et le représentant du Japon en Corée est assassiné en Corée par Han Jung-jeon. Enfin, voilà. Et donc, en réaction, le Japon annexe la Corée. J'en ai bientôt fini avec l'histoire, mais c'était important de resituer ça. Annexe la Corée en 1910, dépose le fils de l'empereur qui avait ratifié le traité et met en place un gouvernement de type militaire, je dirais même de type nazi, pour 35 ans d'occupation qui vont être terribles. Ce sont la répression, les arrestations, c'est le travail forcé, les expropriations, c'est l'apprentissage contraint du japonais, donc la non-possibilité d'apprendre le coréen. C'est l'embrigadement des jeunes coréens dans l'armée impériale. C'est aussi l'exploitation des femmes de réconfort qui vont devoir s'exprimer dans les lupanars de l'armée japonaise. C'est le vol des ressources agricoles et minières et en prime un nouvel isolement du monde. Avec un petit détail qui a son importance, c'est que tout n'est pas toujours blanc ou noir. Le fait que le Japon occupe la Corée va la sortir d'un certain archaïsme organisationnel. Elle va mettre cette péninsule en lien avec une certaine modernité. Mais le reste a été d'une violence absolue. Continuons encore un petit peu sur le sort réservé à la péninsule. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays est coupé en deux. L'Allemagne l'a été, mais l'Allemagne faisait partie du camp des vaincus. Les Coréens, ils n'avaient rien à voir avec cette guerre, cette Seconde Guerre mondiale. Ils vont pourtant être, comme le camp des perdants, considérés et coupés en deux. Très rapidement, s'ensuit. Alors, il faut dire aussi que durant cette période de... Depuis les années 30, des groupes de résistance se sont organisés, notamment un groupe où se fait remarquer un chef de résistance qui va devenir Kim Jong-il. C'est un peu le De Gaulle local, si on veut. D'ailleurs, vous verrez que... Kim Il-sung, pardon, je me suis trompé. Kim Il-sung. Vous verrez que les gaullistes, j'ai reçu une conférence d'un juriste qui a fait un parallèle entre le gaullisme et la théorie du Juche dont je vais vous parler, la doctrine du Juche. Et il y a des points communs. Tout n'est pas effectivement à comparer, hein, mais dans cette... volonté d'indépendance, il y a réellement des points communs. Donc, dès 1948, les résistances sont organisées. Et puis, en 1945, ils prennent le pouvoir, comme en France. Hein, De Gaulle l'a fait avec des communistes, etc. Mais dès 1948, il y a des manœuvres américaines qui sont organisées dans la mer du Japon. Alors, les Coréens du Nord refusent le terme de mer du Japon, ils appellent ça la mer de l'Est. Hein. Symboliquement, c'est intéressant. S'ensuit donc la guerre de Corée, 1950-1953, avec des hauts et des bas, et surtout un pays qui, en 1953, va être complètement détruit, laminé, les villes sont détruites. Il y a, je ne sais pas exactement le nombre de morts, mais on parle 1 million de morts, d'autres citent 3 millions de morts. Enfin, c'est un territoire qui est exsangue au sortir de cette guerre, où, pour la petite histoire, la France a participé d'ailleurs, avec l'envoi d'un bâtiment de guerre prélevé sur l'escadre d'Extrême-Orient et la formation d'un contingent de forces terrestres, environ un millier de volontaires au départ, au total, plus de 3400 Français participeront à cette guerre, pour un bilan qui laissera sur la touche 300 morts et 1350 blessés. Voilà. Sauf qu'en 1953, la guerre est finie, mais il n'y a pas de traité de paix de signé. Et donc, la péninsule, objectivement, est toujours en guerre. Il y a un armistice du bloc soviétique et le Sud, sous forte influence américaine, occidentale et surtout américaine. Alors, on va passer à... On a vu un peu cette histoire qui est importante, hein, cette dimension de la 4D. On va maintenant s'intéresser à cet esprit d'indépendance, et on peut le comprendre, qui caractérise la Corée et qui conduit à l'émergence d'une théorie politique, voire philosophique, propre, qu'on appelle le Juche. Vous voyez cette tour du Juche à Pyongyang qui fait 170 mètres de haut, qui est une philosophie et qui va s'imposer peu à peu comme une doctrine d'État. Alors qu'est-ce que le Juche en coréen ? Excusez-moi sur la prononciation, vous ne me ferez pas trop de reproches après. Juche sasang, littéralement, pensée. Sasang, c'est la pensée, et juche, du corps maître. La pensée du corps maître. Le terme apparaît dès le début du XXe siècle dans les écrits d'un historien nationaliste, Shin Shao-ho, devenu journaliste. Il milite dans une organisation indépendantiste secrète et mourra en 1936 en prison. Alors cette théorie rejoint celle du Dongak Cheundokyo, qui est né au XIXe siècle, qui est fondé par le grand maître Choe Jeu et faisant la synthèse du confucianisme, du bouddhisme et du taoïsme. Imprégné d'esprit national, et on le comprend hostile à l'influence japonaise et occidentale, cette religion est profondément axée sur la volonté d'indépendance de la Corée. Donc dans les deux cas, le Dongak Cheundokyo et le Juche, l'homme est le ciel. C'est-à-dire que l'homme est maître de tout. Nous y voilà, hein, sur le titre « L'homme est maître de son destin ». Le Juche naît en somme du long passé d'invasion de la Corée par des puissances étrangères. Alors vous voyez, là, c'est des plaques qui ont été... Parce que cette tour a été financée par des étrangers, notamment, qui se reconnaissent. Il y a même en France un cercle français d'études, voilà, des idées du Juche. En 1955, le mot est repris par Kim Il-sung, lors d'une réunion du Parti des Travailleurs, qui est la base, hein, du pouvoir en Corée du Nord. C'est un parti qui rassemble 12 millions d'adhérents. Il n'y en a qu'un qui a battu le record, c'était Ceausescu. Hein. Et donc, il s'agit de réinterpréter de façon créative le marxisme-léninisme, dont Kim Il-sung a, semble-t-il, perçu les limites historiques. Il marque ainsi la volonté de ne pas faire de la Corée un satellite de la Chine populaire, toujours par rapport à cette volonté d'indépendance, et s'inscrit dans la logique du mouvement des non-alignés à l'époque. Le Juche est donc attaché à l'indépendance de la Corée, à son autonomie. Il repose à la fois sur le principe d'indépendance politique, mais aussi d'autosuffisance économique, alimentaire et d'autonomie militaire. Hein, vous avez toujours cette dimension politique, économique et militaire qui permet de comprendre encore une fois ce qui se passe aujourd'hui. Dans de telles conditions, on l'imagine, aucune ingérence étrangère n'est supportable. Pas plus qu'aucun suivisme au plan des relations internationales. L'avenir est de la seule responsabilité du peuple concerné et de son niveau de conscience. Idem au plan économique, et vous verrez dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ce que j'ai pu en voir, que ça a de l'importance, où le refus d'intégration dans le marché mondial est une position de principe. La coopération ne peut être que complémentaire. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, quand je parle de coopération, la soif d'échange de connaître est bien présente. Je cite l'ambassadeur de Corée du Nord au Royaume-Uni, qui disait volontiers, et ceux qui sont allés en Corée du Nord peuvent en témoigner, nous souhaitons, nous avons le souci et la volonté d'échanger avec les étrangers, mais nous refusons en quelque sorte ceux qui viennent seulement pour observer, nous observer. En gros, nous ne sommes pas des chiens de cirque, nous sommes des êtres humains indépendants, et ce que nous voulons, c'est échanger. Et Damien pourra témoigner, si tu le veux, tout à l'heure, sur la capacité, notamment au niveau scientifique, et leur volonté d'échanger. Échanger, donc, mais il y a quand même une règle qui est établie en 1982. Je cite Kim Jong-il, donc le fils de Kim Il-sung, le papa de Kim Jong-un. Je cite, « Tout en admettant la nécessité de tenir compte des expériences étrangères, il faut autant que possible privilégier ses propres expériences. » Et là, c'est en pleine dynamique aujourd'hui, ça. « Il est erroné de chercher à copier inconsidérément ce qui vient de l'étranger, et il est tout aussi incorrect de se refuser à étudier soigneusement les expériences étrangères valables. » Je cite un exemple, le système Internet, ils ont tout imaginé en interne. C'est-à-dire, c'est un système intranet, mais ils ont la capacité de le faire. Il n'y a pas de panneaux publicitaires en Corée du Nord. Alors ça, c'est vraiment une surprise. Hein. Quand on arrive, qu'on déboule à l'aéroport et qu'on fait les 25 km qui relient à Pyongyang, il n'y a pas un panneau publicitaire sur Coca-Cola, Samsung, etc. J'en ai juste vu un. Il y a une photo de Damien qui sera passée dans le cours de la soirée. C'est un panneau publicitaire qui vante la seule voiture qui est construite en Corée du Nord et qui s'appelle la voiture de la paix. Étonnant. La question, je continue à citer Kim Jong-il, la question de savoir quelle attitude prendre vis-à-vis des expériences étrangères. Nous nous opposons à l'attitude dogmatique qui consiste à admirer béatement ce qui se fait dans les autres pays par renoncement à toute créativité. Et vous verrez que dans la doctrine du Juche, le mot créatif est hyper important. Et à tout ingurgiter, même si ce qui ne s'adapte pas à la réalité concrète de son pays. On est dans une vision différente de la mondialisation, où c'est vrai, moi qui bourlingue pas mal à travers le monde, je vois les villes, en tout cas les abords de villes se ressembler de plus en plus, quel que soit le continent. C'est juste une image comme ça qui me vient à l'esprit. Cette attitude, et j'en arrête là avec la citation, empêche d'élaborer une ligne et une politique juste dans son pays et répondant aux aspirations de son peuple. Ce principe clé d'indépendance perdure d'ailleurs dans le projet de réunification aujourd'hui, hein, un autre mot-clé du peuple nord-coréen, c'est-à-dire ayant été divisé, et je parle du sud comme du nord, là, ayant été divisé en 1953, l'idée c'est quand même de se réunifier, mais pas de n'importe quelle manière, parce qu'ils ont conscience que les différences idéologiques, politiques, économiques sont telles que ça serait impossible. Et le principe, contrairement à la réunification allemande, c'est une nation, deux États. C'est-à-dire, ils sont d'accord pour, à un moment donné, retrouver le lien. D'ailleurs, il y a des accords qui ont été scellés à la fin de l'année 2018 entre le président de la Corée du Sud et Kim Jong-un, où il est question déjà de rouvrir une ligne ferroviaire, de sortir aussi la Corée du Sud de son isolement d'île. Parce que quand on regarde la péninsule, la Corée du Sud, ça a beau être un pays ouvert sur le monde avec les bateaux, la mondialisation, etc. Mais c'est une île, en fait. Et elle aspire à retrouver le chemin, notamment de tout le potentiel des territoires de l'extrême est russe, de la Sibérie, etc., où, en plus avec le réchauffement climatique, il y aura sans doute des potentialités économiques à saisir. Bon, ça c'est... Voilà. Donc, une nation, deux États, et puis la dénucléarisation, c'est toujours compliqué à dire ça, est aussi à l'esprit, mais Ils se sont dit, les deux présidents, ils se sont dit, OK, on en garde une chacun. Sauf que les États-Unis, les Américains sont présents avec une multitude de bombes nucléaires dans la Corée du Sud. Et pour l'instant, c'est compliqué aussi. Indépendance donc, mais également, alors ça c'est intéressant, c'est l'autonomie locale. On parle de régime socialiste, etc., où le mot autonomie est hyper important. Et là, ce que je vais vous dire, c'est le fruit des entretiens que j'ai eus avec les humanitaires et de ce que j'ai vu. Alors, le développement mise sur le concept de proximité. Certains diraient chez nous, ça s'appelle, c'est une doctrine, le localisme. Localisme, chez nous, c'est en vogue. C'est ce qui est local, ça favorise la cohésion sociale, l'économie de proximité, donc l'emploi local et la préservation de l'environnement via une moindre empreinte écologique liée au transport de personnes et de marchandises. Alors comment s'exprime ce localisme en République populaire démocratique de Corée ? Je prendrai l'exemple du programme de sécurité alimentaire. On dit qu'il y a une famine. J'entends encore des journalistes qui parlent de la famine en Corée. Il y a eu une famine en 1995 et jusqu'à 1998, avec, on estime, 1 million de morts, c'est vrai. En cause, la chute du bloc soviétique qui a apporté son soutien, notamment à l'agriculture, avec d'ailleurs des engrais et des pesticides, chose qui appuie aujourd'hui. Donc, tout malheur, il y a quelque chose de bien qui en sort. Et donc, y a en fait un problème de sécurité alimentaire, c'est-à-dire un problème de... nous, on a trop de protéines animales dans nos régimes alimentaires, eux, ils n'en ont pas assez, si je veux résumer, c'est ça. Donc, le triangle génération humanitaire et les organisations humanitaires présentes, il y en a 5 en Corée du Nord, parce qu'il y en a qui se retirent aujourd'hui à cause des sanctions, qui n'ont plus la possibilité de travailler. Triangle Génération Humanitaire, depuis 20 ans, travaille et a développé ces programmes de proximité. Notamment, vous avez vu une photo de pisciculture. Donc, il y a plusieurs piscicultures. Ils ont rouvert des prairies naturelles. Parce que la famine, c'était la fin du bloc soviétique, mais c'était aussi le fait d'avoir fait de la déforestation qui avait généré des inondations très importantes. Tout ça, ça a fait que ça s'était cumulé et ça avait généré cette famine. Donc des programmes, et Eric Martin me disait, lui qui travaille... beaucoup en Asie, notamment dans d'autres pays comme la Birmanie et le Népal, disait on trouve en Corée du Nord des partenaires avec une technicité élevée. Alors soit parce que ils sont un peu âgés, ils ont été formés dans les pays de l'Est, l'Allemagne de l'Est notamment et l'Union soviétique, l'ex-Union, soit parce qu'ils ont développé aussi chez eux cette technicité. Alors la proximité, c'est quoi ? C'est une ferme coopérative. Une ferme coopérative, c'est 1500 salariés. C'est important. Et donc le fait de développer des programmes nutritionnels concerne déjà les gens des coopératives, mais aussi les villes avoisinantes. Vous avez des villes moyennes de 20 000, un peu comme Épinal, 20 000, 30 000 habitants. Et donc, on raisonne dans cette logique-là, c'est-à-dire on produit du maraîchage, par exemple, des poissons, etc., mais on ne va pas les exporter directement à Pyongyang, qui est une ville d'environ 3 millions d'habitants, pour un pays qui a 25 millions d'habitants. Mais on s'intéresse déjà au territoire de proximité. Et puis, cette organisation humanitaire s'est aussi pas mal investie dans la problématique de l'eau, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas du laxisme, et il y a des villes entières qui peuvent être concernées par des lacunes au niveau des réseaux d'assainissement. Donc ça, c'est un gros travail qui est fait avec l'accord, bien sûr, des autorités. Sachant, et là je peux peut-être développer un petit peu, par rapport aux sanctions qui sont mises en œuvre par l'ONU, mais aussi, parce que vous avez le système onusien des sanctions, mais chaque pays peut développer ses propres sanctions. Et la Chine le fait. La Chine, qu'on dit le grand soutien à la Corée du Nord, les échanges entre la Chine en 2018 et la Corée du Nord ont baissé de près de 50%. Selon les chiffres des douanes chinoises. Donc vous voyez la conséquence aussi sur le pays. TGH évoquait notamment le fait qu'il y a de moins en moins de bailleurs de fonds qui viennent soutenir les organisations humanitaires et que c'est l'Europe qui maintenant assure quasiment l'essentiel du soutien. Et me donnait une illustration, ils avaient besoin dans une pisciculture qu'ils avaient développée dans l'est du pays, ils avaient besoin de deux camions plateau de 2 tonnes 5, donc quelque chose d'assez basique, mais qui n'est pas produit en Corée du Nord. Et donc, ils ont dû passer. Alors, c'est logique, hein, parce qu'ils respectent les sanctions. Ils ont demandé l'autorisation à l'ONU pour obtenir une autorisation. Donc, ça a pris 2 mois. Après, ils ont dû avoir l'accord d'importation en Corée du Nord de la Chine. Ça a repris 2 mois, puisque les camions étaient construits en Chine. Et puis après, l'exportateur, le fournisseur, pour déclencher l'exportation de ces précieux camions, ça a remis 2 mois aussi. Il fallait encore une autre autorisation. Total, 6 mois d'attente. Et le projet arrivant à terme, ils n'ont même pas pu évaluer le bien fondé ou pas de l'achat de ces camions. Donc là, ça pose des problèmes qui peuvent être gravissimes, puisque le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose a mis fin à ces aides en 2018. Et aujourd'hui, on compte en Corée du Nord 120 000 tuberculeux. Il y a une épidémie qui est en train de se développer, dont personne ne parle. Mais ça, c'est aussi le fruit entre guillemets, hein, parce que de ces sanctions. Enfin, l'autonomie s'exprime aussi au plan économique en interne, et ça c'est encore plus étonnant. Ça c'est un programme de, ouais, parce que TGH développe aussi des programmes d'aide aux personnes âgées. Les personnes âgées en Corée du Nord, comme dans la majorité des pays d'Asie, sont pris en charge souvent par la famille, par les générations qui suivent, et celles qui n'ont plus d'enfants ou de petits-enfants pour subvenir à leurs besoins. Il y a donc des programmes de développement de maisons de retraite, de centres de jour d'accueil pour les sortir de l'isolement, etc. Et ça, c'est les humanitaires de Grenoble qui font ça aussi et qui développent. Alors, l'autonomie s'exprime au plan économique. Bon, tout appartient à l'État. Hein, c'est un régime qui est comme ça. Sauf que les directives depuis quelques années mettent en compétition les entreprises d'État. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie de gestion réelle qui est donnée à la direction et aux collaborateurs de ces usines. Alors j'ai eu la chance de pouvoir visiter, parce que j'avais demandé dans mon projet, parce qu'il fallait faire un projet pour obtenir le fameux visa. Donc moi, j'avais demandé de travailler sur le développement durable en Corée du Nord, partant du principe que, étant un pays refermé sur lui-même, pour des raisons qui lui sont propres, mais aussi par rapport à ce que je viens de vous dire, hein, sur les sanctions, forcément, il développait des choses notamment des énergies, comment trouver de l'énergie, comment la renouveler, etc. Et j'ai eu la chance de pouvoir visiter, parce qu'on dit souvent que les panneaux photovoltaïques, par exemple, viennent de Chine. Vous avez en Corée du Nord une usine, notamment, c'est cette usine, mais on verra d'autres images, Mokran Kwangmyong, qui est à Pyongyang, mais qui a aussi des satellites en province. Vous voyez, cette usine avec des panneaux voltaïques sur les parois, sur le toit, etc. et qui fournit quasiment 50% des panneaux photovoltaïques de Corée du Nord, sachant qu'il y en a partout de ces panneaux. Tout l'éclairage public, c'est des panneaux photovoltaïques. Vous avez des nouveaux quartiers qui sont construits à Pyongyang, où les édifices, à chaque étage, je pense qu'il y a une photo hein, après, vous avez des panneaux photovoltaïques, de la géothermie, et au-dessus, sur les terrasses, des serres où sont cultivés des légumes et qui sont entretenus par les habitants de l'immeuble. Là encore, on est dans une logique de proximité. Hein. Alors, la gestion autonome, c'est aussi pouvoir, au-delà d'un... Cette usine, au départ, elle produisait des instruments style téléviseur, enfin, voilà, tout ce qui tourne autour du DVD, etc. Et à un moment donné, ils ont décidé de se lancer dans la production aujourd'hui de panneaux solaires. Ils sont déjà en train de réfléchir sur les éoliennes. On en a vu quelques-unes. Et donc, c'est un peu le modèle qui se passe en Corée du Sud, d'ailleurs. C'est une sorte de conglomérat, mais de proximité. Donc, ce groupe-là, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs sont en même temps opérateurs. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une division entre... Tous sont diplômés et tous participent à la production et à la recherche. Et donc, c'est le mot-clé, c'est ce mot-là, c'est l'autonomie. Une autonomie qu'on va retrouver d'ailleurs avec un... Parce que pour être autonome, pour être indépendant, il faut avoir les capacités de l'être. Et d'où le rôle essentiel qui est donné aux intellectuels, aux scientifiques. Et on le voit d'ailleurs sur cette image, vous avez la faucille et le marteau, mais vous avez en plus le pinceau. Qui vient se rajouter et qui fait un triptyque tout à fait nord-coréen. Le concept, on en revient à la philosophie du Juche, établit que l'homme, bien que produit des rapports sociaux, là on est dans le marxisme-léninisme un peu classique, est néanmoins, je cite, là, maître de tout et décide de tout, il est le maître de son destin et peut trouver en lui-même la force nécessaire pour le modeler. Alors cette conscience le rend indépendant du milieu dans lequel il évolue, mais aussi de la matière, des ensembles qui l'environnent. D'où une prise de position dès les années 80 par rapport au marxisme. Le parti revisite d'ailleurs sa charte en gommant les concepts de Marx et de Lénine. La constitution du 9 avril 1992 supprime ainsi toute référence au marxisme-léninisme et à la dictature du prolétariat, et accentue les références au concept du Juche. C'est là où le pinceau apparaît. Voilà. C'est l'homme, en fait, qui précède les rapports sociaux, et c'est lui qui les tisse conformément à ses besoins, fait dire le biographe à Kim Jong-il. L'homme est donc sujet de l'histoire. Voilà. Mais attention, si l'homme est maître du monde... La philosophie Juche ne suggère nullement que le monde matériel a pour composante essentielle l'espèce humaine. Cette philosophie souligne que c'est l'homme qui modifie le monde, mais elle n'admet pas que l'homme soit l'auteur de tous les changements survenant dans le monde. Ce qui a souvent été interprété comme ça par certains observateurs. Donc, être social souverain, indépendant, hein, ça c'est la théorie, on est d'accord. Doué de conscience qui l'emporte sur la matière. Hein. L'homme a en tout cas pour autre moteur sa créativité. Et c'est là où c'est important, c'est l'un des trois facteurs décisifs du développement. Et je cite Robert Charvin qui est auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Comment peut-on être coréen du Nord ?» entre parenthèses. Ça, c'est notre ami Damien Jamet qui enseigne à l'université Kim Jong. Alors, Robert Charvin, il est universitaire et il est doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences économiques de Nice, Sophia Antipolis. Et je le cite, « Cet esprit de créativité basé sur la connaissance renouvelle l'angle d'approche de l'économie et de l'histoire. Les mouvements historiques contrairement au marxisme, ne sont pas le fruit des contradictions sociales, mais de la façon dont l'homme créateur réagit à ces contradictions. Vous voyez, c'est subtil. Le monde matériel n'est pas nié, mais la connaissance des lois de son évolution, par l'homme, lui permet de se transformer lui-même en transformant la réalité. Il est donc possible non seulement de transformer le monde, mais de le transformer vite et globalement, sans priorité ni étape. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Pour ceux qui y sont allés plusieurs fois, de voir avec quelle rapidité, on peut s'arrêter sur l'image là, par exemple, ce quartier qui a été créé en quasiment un an. Et ça, c'est le quartier de Mirae, qui est le quartier des scientifiques. C'est-à-dire les scientifiques sont adulés et valent plus que les politiques, que les responsables de parti. Et ils bénéficient d'appartements, on pourrait dire de luxe, entre guillemets. Enfin, Damien, tu as été accueilli chez des scientifiques. Et tu peux dire qu'on y mange et on y boit très bien. Donc en fait, cet optimisme théorique, parce que derrière ça, il y a une sorte d'optimisme théorique, fait du Juche une idéologie, une philosophie tonique, quelque part, et motrice. La formule « tout est prioritaire » est souvent citée. Elle s'applique aussi bien dans les rapports entre politique et économie, agriculture et industrie, production et consommation, transformation technique et révolution idéologique. Et aujourd'hui, moi je peux ajouter, industrie verte, ressources naturelles, propriété d'État, autonomie de gestion, j'en ai parlé, et réalisation d'infrastructures, mobilisation du peuple. Vous avez quand même un peuple qui ne paye pas d'impôts, mais qui est mobilisable. Lorsqu'il y a des grands projets. L'armée, par exemple, le service militaire, c'est 7 ans pour un garçon, 3 ans pour une fille. Les étudiants sont exemptés. Seulement, sur les 7 ans, il y en a un qui est à peu près, enfin, en gros, grosso modo, consacré au maniement des armes. Et les 6 autres années, c'est participer au projet collectif. Construire un barrage hydroélectrique, construire... un dortoir ou des chambres et une cantine dans une usine textile de Pyongyang, construire une école, etc. Donc cette capacité mobilisatrice, quelque part, et cette acceptation d'une théorie où tout est prioritaire, fait que des choses peuvent effectivement se réaliser. Il y a un autre quartier, notamment à Romyang, qui est assez impressionnant, qui a été réalisé aussi en un an. Alors, des quartiers qui, vous l'avez vu, au départ pouvaient être de type stalinien, puisqu'on était dans la reconstruction après la guerre avec des gens formés, notamment à Moscou et en Union soviétique. Aujourd'hui, l'urbanisme, c'est un peu comme ça... a pris de la légèreté. Enfin, et c'est peut-être dû aussi au fait que deux promotions au début du millénaire, là, deux promotions d'étudiants nord-coréens sont venues étudier l'architecture en France. À l'époque, c'était possible. Et ont aujourd'hui des postes de responsabilité. J'ai notamment rencontré un de ceux-là qui s'occupe aujourd'hui du département de l'architecture verte. Pour résumer. Donc, ça sous-tend cette volonté d'échange qu'ils ont avec le monde, tel que je le disais tout à l'heure. Donc, par belle fête aux scientifiques, alors là, je ne peux m'empêcher d'évoquer à ce moment le fait qu'il existe une université américaine à Pyongyang. Il faut le savoir, personne n'en parle. Mais depuis 2011, des fonds privés américains, évangélistes, le détail est sympa aussi, ont créé dans la capitale même de la Corée du Nord, ont créé cette université qui s'appelle la PUST, et dont tous les enseignants sont étrangers, et qui permettent à 500 jeunes nord-coréens d'acquérir des connaissances scientifiques. C'est une université scientifique. Je me permets aussi de dire que notre ami Damien, par exemple, avait obtenu une bourse de Erasmus Mundus, donc une bourse européenne, pour aller enseigner dans cette université américaine à Pyongyang, et que Paris lui a opposé un refus. Voilà. Non, mais ça, c'est aussi intéressant à savoir. La France étant le seul pays européen avec l'Estonie à ne pas avoir de relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Pendant ce temps-là, vous avez des sociétés britanniques qui commencent l'exploitation du, sans doute, le plus grand gisement de terres rares au monde, à équivalence avec la Chine, qui est à 175 km au nord de Pyongyang. Et c'est une société britannique qui s'implique dans ce développement économique. Et nous, on est absents. Bon, après, on a sans doute de bonnes raisons, hein, j'imagine. La part faite aussi à l'éducation. Alors, je ne sais pas si on a vu les images de l'école normale de Pyongyang. Ouais. Alors ça c'est des unités technologiques dans l'industrie. Yves Dubief, qui était président qui est toujours d'ailleurs président du syndicat textile au niveau national, qui est un industriel vosgien. Je me souviens, je l'avais interviewé il y a à peu près une douzaine d'années. Il revenait de Pyongyang. À l'époque, on laissait son portable à l'aéroport, hein, dans un casier, et on le reprenait à la sortie. Maintenant, on peut y aller sans problème. Il m'avait dit, les unités textiles, c'est l'horreur, c'est la fin, c'est le pire du soviétisme, enfin voilà. Et donc j'avais vu les photos effectivement à l'époque, et je peux vous dire, moi j'ai eu l'occasion de visiter des industries, notamment une filature qui a des machines à commande numérique, enfin, et en plus a développé des unités de confection ultramodernes dans le cadre de l'autonomie de gestion. L'école normale, c'est pareil, c'est-à-dire vous avez des salles à réalité augmentée, c'est-à-dire les étudiantes viennent présenter leur projet de diplôme avec toutes les dernières technologies. Mais ça, c'est le propre peut-être à la Corée et à l'Asie. Ils ont sans doute un peu d'avance sur nous, je ne sais pas. Et puis, des salles de classe virtuelle. Vous avez les jeunes élèves qui sont face à un écran avec une classe virtuelle d'enfants, où elles parlent, elles s'expriment en anglais, les gamins répondent en anglais, elles s'expriment en coréen, ils répondent, etc. Et ils font des exercices comme ça, assez étonnants. Je pense qu'aujourd'hui en France, ils développent des programmes en septembre, là, ils prévoient de développer un certain nombre de choses en septembre, mais il n'y a toujours pas les formateurs pour... Bon, après, je ne veux pas faire de comparaison et je ne fais pas d'angélisme, on est d'accord. Mais il faut savoir que ça existe, c'est une réalité. L'industrie verte, par exemple, ça c'est une citation de Vélolib. Ça existe à Pyongyang. Nous, on est en train de se demander s'il faut interdire la circulation le dimanche des véhicules. Eux, ils l'ont déjà décidé, même s'il n'y a pas beaucoup de véhicules, mais ils sont déjà dans cette anticipation. Pour revenir à l'éducation, donc des moyens relativement modernes, et aussi une autonomie de gestion, c'est-à-dire, par exemple, c'est idiot, mais c'est les élèves qui imaginent et qui conçoivent des jeux d'éducation ou des jouets, des projets éducatifs, etc. Voilà. Toujours dans cette autonomie, alors je continue un petit peu sur la ligne verte de la Corée du Nord, où on voit tous ces panneaux, où on a aussi le développement de produits biosourcés. Notamment dans le nord du pays, où les chercheurs de l'université d'architecture travaillent avec des entreprises locales pour tirer parti des roches volcaniques qui sont extraites du volcan du mont Paektu. Un gros développement de l'agriculture bio aussi, par nécessité, puisqu'il n'y a plus d'entrants pesticides, etc. Et donc ça peut être à dire aussi. Et puis ce fameux gisement de terres rares qui peut expliquer aussi aujourd'hui certaines positions internationales sur ce pays. Peut-être même le revirement de Trump à un moment donné, qui a dû être éclairé par certains, sur ce potentiel qui est un potentiel d'avenir pour le territoire nord-coréen et coréen. Alors, on ne peut pas se passer d'évoquer le chapitre que j'appelle, moi, les leaders et le peuple, hein, puisque c'est aussi un des éléments qu'on a en vision, en tout cas en Occident, et c'est une réalité. Hein. Elle s'inscrit donc dans cette dynamique, cette créativité, dans une dynamique politique. Mais alors, politique, je vais vous citer encore une fois Kim Jong-il, après ce sera fini. Hein. Au-delà de la ligne de classe, dit-il, le Juche évoque la ligne de masse. Appliquer correctement cette dernière pour raffermir les positions de classe et isoler complètement les éléments hostiles. Rallier les larges masses de toutes les couches sociales en les éduquant et les rééduquant et donner enfin le libre champ à leurs forces créatrices. Alors quand on parle de rééducation, on peut imaginer ce qu'on veut. Mais par exemple, vous avez un fonctionnaire qui a dérivé du principe de sa fonction. Il a envoyé 15 jours en rééducation, c'est-à-dire on le recadre. Quoi. Hein, c'est une façon de dire. C'est pas forcément le camp d'extermination comme on peut l'entendre. Quoi. Hein. Mais cela dit, il faut rester dans la ligne de masse. Hein. Et l'idée, c'est de lutter sans merci contre la passivité et le conservatisme. Là, c'est l'opposé de la créativité. Voilà. Alors, j'en viens à quelque chose qui peut surprendre, mais il y a derrière cette pensée nord-coréenne, d'ailleurs, on le voit là, le projet d'un homme neuf et de rapports humains renouvelés. Vous voyez que ils s'aiment. Le mot amour, d'ailleurs, le mot amour fait partie du vocabulaire politique. Hein. On n'entend pas chez nous un leader politique dire « je vous aime ». Là-bas, ça se dit. Bon. De même que l'affection, le respect et l'obligation morale. Ça, c'est quelque chose qui est important et c'est l'héritage sans conteste du confucianisme, de la culture confucéenne, où la piété filiale, le respect, la discipline, l'intégrité, la fidélité sont de mise. Au cœur des familles, hein, comme de la société. Donc, c'est rare de voir des délinquants en Corée du Nord. Hein. Vous êtes en sécurité absolue. Pas eu de soucis. D'ailleurs, pour bien préciser les choses, on est quand même accompagné. Hein. Un chauffeur, c'est utile. Un interprète, ça peut aider. Moi, je ne parle pas coréen. Et puis, ce qu'on appelle le fonctionnaire du protocole, qui est là pour essayer de satisfaire vos besoins. Donc, voilà. Mais c'est important de le dire. Mais si vous avez une relation de confiance avec ces personnes-là, ça ouvre des possibilités. Et Damien peut confirmer. Tu peux te balader comme tu veux dans la capitale, et Patrick aussi. Et moi, j'ai pu le faire aussi. À partir du moment où vous êtes dans une relation de confiance d'entrée de jeu, moi, je me souviens, à la sortie de l'aéroport, il y avait des photos à faire, évidemment. Hein, j'ai demandé au fonctionnaire du protocole. Il m'a dit, ouais, pas de souci. Et après, il me laissait même m'éloigner un peu. Enfin, voilà. Donc, mais si d'entrée de jeu, effectivement, on n'est pas dans cette logique confucéenne du respect, de l'obligation morale, etc., les Nord-Coréens disent, vous êtes chez nous, moi, quand j'irai à Paris, je respecterai les lois et les règles qui sont en vigueur dans votre pays. Et déroger à ces règles, on prend le risque de le faire. Ce qui explique que certains occidentaux comportements plus ou moins douteux, parce qu'il y en a, hein, ont des problèmes, ça c'est sûr. Hein. Alors, pour comprendre, parce qu'on va revenir sur cette notion de leader, quoi, parce que ça, j'en terminerai par là, parce que c'est important. En fait, le leader, il est nécessaire dans la doctrine du Juche. Il est nécessaire. Pour comprendre cette relation qui est hors norme, moi j'ai assisté au stade de 190 000 places, le plus grand stade du monde, le stade du 1er mai, à un spectacle, donc 190 000 personnes, c'est impressionnant. Et quand vous avez le leader qui apparaît, ou sur une tribune, c'est impressionnant la relation qu'il y a. Enfin, on ne peut pas imaginer que ça soit directif. Oui, c'est-à-dire ils sont éduqués aussi, ils sont mobilisés pour ça peut-être depuis l'enfance, mais il y a une véritable relation quasiment charnelle, quoi. C'est impressionnant, enfin, c'est assez étonnant. Et les valeurs qui sont portées par l'école confucéenne font de cette dernière, en fait, l'un des piliers de sa philosophie. Alors, le prince confucéen, je vous le rappelle, était dénommé l'étoile polaire du monde moral. Hein, l'étoile polaire du monde moral, le guide, donc, quelque part. Hein. Et il avait pour enjeu, en fait, c'était la pacification du corps social. Et on en est toujours là aujourd'hui avec un ordre hiérarchique des liens familiaux et politiques. Donc l'obéissance aux puissants en découle. Là, vous avez une réunion de quartier. Parce qu'il y a quand même des discussions. Hein. Il y a des choses qui se passent avec les gens. C'est pas personnification n'est pas personnalisation du pouvoir. Même si on peut s'imaginer le contraire, il y a une participation, notamment, je l'ai dit, à travers cette volonté d'autonomie, de gestion, de cette responsabilité. Dans responsabilité, il y a le mot réponse. Hein. Être responsable, c'est apporter aussi des réponses à ce qui nous arrive dans un groupe, dans une société, dans une famille. Et donc, cette mobilisation-là permet d'apporter aussi des réponses, quoi. Voilà, je vais peut-être en rester là, sinon, voilà, pour vous dire que oui, par rapport à la dynastie, parce qu'on parle souvent de dynastie, je ferai simplement un petit parallèle entre ce qui s'est passé dans celle qu'on a appelée la plus grande démocratie du monde, qui est l'Inde. Vous avez quand même Indira Gandhi qui a succédé à son papa et son fils qui lui a succédé. Le mot dynastie, c'est aussi un concept très, très asiatique. Hein, et puis, ça peut être aussi africain. Je pense à Eyadema au Togo. C'est quand même 40 ans de dynastie d'une famille aussi. Donc tout ça, bon, voilà. Je vais en rester là pour ouvrir peut-être un peu le débat, parce que vous avez sans doute des questions à poser. Je voulais simplement terminer quand même. Hein, tu me laisses 2 minutes, non ?
Tu as 2 minutes.
Voilà. J'avais préparé un... Oui, à propos de la Corée du Nord, alors qui est si attachée à son indépendance, quels que soient les moyens, hein, on est d'accord, ce qui ne sous-tend aucun angélisme, hein, c'est sûr, de ma part, au fond, la vraie question posée est peut-être celle-ci. Qu'est-ce qui unit un peuple ? En somme, un collectif d'êtres humains, l'armée, l'idéologie, la maîtrise des moyens de communication, le parti quasi unique, parce qu'il y a deux petits partis satellites, mais le culte du chef, ou bien, de l'autre côté, l'or, l'argent, l'expertise d'élite, la pensée unique du système médiatique, la maîtrise des ressources par un petit nombre. J'ai cru entendre un jour en cette latitude orientale, donc dans le nord de cette péninsule, que ce pouvait être aussi l'histoire qui unit un peuple. J'ai le sentiment que l'histoire a son mot à dire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Nord. Alors imaginez l'avenir de l'humanité, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Hein. C'est aussi tenir compte de la tradition, car rien n'est innocent. Et le passé a heureusement sa place dans l'édification d'un nouveau monde. On est en train, on parle de post-humanisme. Il est donc question de transmission et bien sûr d'innovation, évidemment. Donc d'utopie, de rêve. Imaginer l'avenir de l'humanité relève d'une démarche qui ne peut se priver d'aller quérir, chercher sur toutes les parcelles de la planète pour mieux comprendre les voies différentes qui s'y sont ouvertes. Sachant, et j'en ai fait une des dédicaces de mon ouvrage d'ailleurs, en citant mon écrivain fétiche, le chilien Luis Sepúlveda, je le cite, « Le visage humain, quel que soit le territoire où on se rend, le visage humain ne ment jamais. C'est l'unique carte qui enregistre tous les territoires que nous avons habités. » Il me paraît plus que jamais important donc d'aller à la rencontre de ces visages, où que ce soit, quelles que soient les circonstances, pour mieux se construire encore et toujours tenter de participer à la transformation du monde, en toute humilité, bien sûr. J'ai dit.
Merci à toi, mon cher Claude, de cette belle heure passée à nous faire découvrir un pays qu'effectivement, je me fais peut-être l'interprète de beaucoup parmi l'Assemblée, je ne connaissais que très peu, et effectivement, par le biais de certains clichés, au fil des années. Vous avez bien sûr, et je l'espère, des questionnements. Afin de prendre la parole chez nous, on a un système très simple, vous levez la main, et à ce moment-là, on vous la donne. Donc si vous êtes tenté par l'envie de continuer à débattre sur cette Corée du Nord, qui est un tout petit peu moins obscurée et mythique que celle qu'on prétendait connaître, levez la main, monsieur.
Bonsoir, de vitesse. Je voudrais savoir s'il y a des francs-maçons en Corée du Nord.
Parole est à Claude Vautrin.
Et si certains francs-maçons sont permis d'y aller.
Non, je suis un homme libre et indépendant. Non, je pense pas qu'il y ait des francs-maçons en Corée du Nord, mais tout est possible. C'est possible. Il n'y a aucun territoire qui n'échappe aux valeurs universelles et à la volonté de se transformer et de transformer la société. Donc,
d'autres questions, pardon, oui.
On a compris que...
Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît, monsieur. Pardon. Merci.
Essayez de nous montrer comment la tradition, les mythes, etc., ont un peu façonné cette Corée du Nord avec les apports communistes, etc. Mais tu as dit aussi qu'il y avait une nation, deux États, de la Corée du Sud. Comment la Corée du Sud a liquidé toute cette tradition confucéenne, traditionnelle, non. Et si oui, comment quoi.
Je... 10 ans d'histoire. Ces 70 ans d'histoire, c'est déjà plusieurs rapprochements hein, qui sont faits depuis 1980. C'est pas la première fois que des présidents se rencontrent des deux régions. Je ne pense pas que le confucianisme ait quitté la Corée du Sud. Hein. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'autre jour, j'étais à Paris pour faire une conférence et il y avait une Sud-Coréenne qui était là. Et qui a vécu une envie folle d'aller en Corée du Nord. Et vous savez pourquoi ? Pardon ?
Les rapprochements familiaux ?
Ah non, c'était... Parce qu'il y a ça aussi. Hein. D'ailleurs, dans le projet qu'ils ont élaboré à la fin de l'année 2018, il y a cette volonté de réouvrir le lieu où ils puissent se retrouver. Non, son désir, il provenait de la langue. Elle disait, notre coréen est trop anglicisé, Et le vrai coréen, il se parle en Corée du Nord, et j'ai envie d'entendre, enfin une fois, parler ma vraie langue. C'est une coréenne du Sud qui m'a sorti ça. Donc voilà. Après, sur la dimension confucéenne, je pense que les dirigeants des grands groupes coréens jouent là-dessus aussi. Hein, c'est sur la puissance du maître, etc. C'est ancré, je pense, dans la culture coréenne. On n'évite pas ça par un coup de baguette magique. Par contre, le concept une nation, deux États, c'est assez intéressant que eux deux, enfin, les deux parties, considèrent qu'il y a trop de. Ils sont trop éloignés sur le plan notamment économique et politique, et que la raison doit passer par ces deux États, sachant que la nation serait retrouvée. Quoi. Oui.
Bonjour.
J'avais
une question par rapport, vous avez quitté pendant 11 jours, que en Corée du Nord, pour certains, par rapport à ce que vous dites de l'histoire, je sais que la Corée du Sud a aussi tout son travail de mémoire et de savoir son identité nationale, justement après ses occupations par les États-Unis, et que ça passe d'une certaine façon par la littérature, par le cinéma. Est-ce que vous avez des données par rapport au cinéma nord-coréen ou à la littérature nord-coréenne ?
Alors, la littérature nord-coréenne, moi, j'en ai pas trop. Sinon, qu'il y a une littérature qui met en avant, qui illustre un peu ce qui se passe, quoi. On est plus dans le réalisme de type, réalisme un peu à la soviétique, quoi. Enfin, entre guillemets, quoi. Le cinéma nord-coréen, c'est intéressant parce que les leaders sont notamment Kim Il-sung et Kim Jong-il, étaient passionnés de cinéma, ils avaient fait des études, ils s'intéressaient beaucoup au cinéma. Et il y a donc, par exemple, il y a un festival de cinéma à Pyongyang, international, et les films qui sont sélectionnés ont tous une dimension sociale, quoi. On est toujours dans cette logique de mettre en avant soit les rapports sociaux, soit les faits historiques, la lutte anti-japonaise, etc. Donc après, je ne suis pas assez spécialiste de la question pour en parler.
Encore une question ? Oui ?
Bonsoir.
J'entends que la science est portée un peu au nu, en tout cas les scientifiques. Alors, que produisent-ils s'ils font partie d'une élite, alors qu'en parallèle, on voit qu'on ne vaccine pas et que les enfants et les familles dépérissent de tuberculose.
Alors. Des maladies, il y en a aussi partout dans le monde, hein, on est d'accord. Quoi. Peut-être, Damien, tu pourrais peut-être sur cette question du rôle des scientifiques. Et on voit ce qu'ils sont en capacité de faire, c'est par exemple en informatique. Damien, tu les as rencontrés sur Internet. Du coup, tu as été enseigné à Pyongyang. Et tu dis que c'est des intellectuels de haut niveau. Tu peux répondre.
Donc oui, ce qu'ils produisent, moi j'ai rencontré essentiellement, je suis mathématicien et informaticien, je suis entre les deux, je travaille à l'université de Nancy. Et ce qu'ils produisent, c'est, alors, pour des raisons d'embargo, pour des raisons de sanctions de l'ONU par exemple, ils produisent leur propre système d'exploitation. Alors, en gros, pour résumer, ils ont un système qui est basé sur Linux, enfin, en gros ils n'ont pas Windows ni Mac, ils ont un propre système Linux. L'avant-dernière fois que j'y suis allé, j'ai eu la chance d'être logé dans la cité universitaire, en fait, avec des étudiants et des étudiantes nord-coréennes. J'ai vraiment vécu avec eux, on passait toutes les soirées ensemble, c'était assez intéressant. Et donc, j'ai pu constater qu'ils ont des tablettes de style Android comme chez nous, avec des applis comme chez nous. Quand on rentre au restaurant, on peut acheter des applis. Donc, ils ont un système qui est totalement comparable au nôtre, mais qui est fait uniquement localement. Donc, ça, c'était en 2017-2018. Et l'année dernière, quand on y allait, il y avait des nouvelles applis qui avaient été faites. Et ils commençaient à mettre au point l'équivalent de Google Maps pour se balader en ville. Donc, ils utilisent le GPS, ils peuvent pas trop brouiller. Donc, ça, les sanctions, je ne sais pas comment ils font. Donc, ils développent tout moi dans ma compétence, tout ce qui est la partie informatique et mathématiques, mais informatique, ils développent tout en local. La jeune fille qui était dans la chambre d'à côté, elle choisissait des vêtements, comme sur Amazon, on va dire l'équivalent, elle prenait des vêtements, elle choisissait des vêtements. Donc, elle faisait son shopping, mais tout en intranet. Et on connaît il y a très peu de personnes qui ont un accès direct à Internet. C'est assez rare. Et même les chercheurs eux-mêmes, on parle d'accès direct à Internet. En fait, par exemple, vous allez à l'institution qui est la plus grande université, on vous donne une carte. Vous avez 5 personnes qui vous donnent une carte de visite, vous en avez un cinéma.
C'est où? Ça peut être marrant. Je te dirai.
On envoie un mail et après, j'imagine qu'après, ça, en intranet, ça repart. Et quand vous recevez un mail,
il ne faut pas le laisser parler trop longtemps.
C'est un mail qui va être dans une pièce attachée. C'est-à-dire que la personne va simplement taper sur un équivalent Word. Et voilà, après, ça marche. Hein, ça... Pourquoi pas? C'est pas non plus une fois en soi d'avoir tous internet pour nous faire connecter à la maison. Je ne sais pas. Et ça fonctionne. Au bout du monde, ça fonctionne. Ils vont à haut niveau. Ils publient dans les revues internationales. C'est comme ça que moi, je suis rentré en contact avec eux. C'est parce que je suis tombé sur un article dans une revue internationale. En plus, je crois que c'est une revue américaine, pas une revue qui est sur un article qui datait de 2015. Mais non, c'est d'avant. J'y suis allé en 2015. Donc, c'est un article qui est daté de 2011. Donc, dans une revue internationale, ils publient dans le même système que nous. Ils publient dans les revues, on peut les contacter. Moi, j'ai envoyé un mail, etc. Donc, ça fonctionne. C'est un peu plus lent. Donc, voilà. Donc, du côté informatique, ils produisent quasiment tout sur place au niveau du logiciel. Ce qu'a montré Claude tout à l'heure, on a vu vite fait, il y avait ça, on voyait un peu, c'était la réalité virtuelle. Ça, je dirais, il y a 90% de chances qu'ils soient localement. Alors après, peut-être qu'ils sont pas bêtes, hein, peut-être qu'ils vont aller à l'étranger, donc peut-être qu'ils captent, ils copient, mais en tout cas, c'est retenu sur place. Et donc, moi, ce qui m'avait marqué surtout, c'était le fait qu'ils aient leur propre système d'exploitation. Pour être sûr de le contrôler de A à Z. Quoi. Mais déjà, c'est un système qu'on a chez nous aussi. Hein. Moi, j'ai une grosse journée, ils copient le système d'employeur chez moi, ils m'ont donné. J'ai une idée, c'est pas secret,
ceux qui connaissent... Ils échappent à Facebook.
Oui.
C'est ça qui est drôle. Par contre, le système biologique, je ne sais pas, mais toi, tu as insisté sur le fait que, du fait des sanctions, il y avait des vaccins en moins qui étaient...
Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est l'accès aux vaccins, quoi. Parce que je...
En physique, ils ont l'air fort.
Alors, ce qui est intéressant au niveau de la santé, c'est peut-être juste intéressant de le dire, c'est que les futurs médecins sont formés à la fois à la médecine traditionnelle et à la médecine allopathique. Quoi. C'est-à-dire, il y a le cursus qui intègre 20% de temps consacré à la médecine, plantes médicinales, etc. Et tout le quartier des hôpitaux, notamment cette photo là qui vient que j'ai faite au service des enfants infantiles de la clinique ophtalmologique, tout le quartier des hôpitaux, alors c'est des hôpitaux spécialisés, mais qui sont d'ailleurs équipés de façon assez moderne, sont construits autour de l'académie de médecine traditionnelle. Donc un médecin doit être formé aux deux. Et donc le système de médecine traditionnelle perdure sur le terrain. Alors que nous, on est dans la logique aujourd'hui de déremboursement de l'homéopathie. Bon.
Encore une question?
Tu peux dire que je dédicace. Je dédicace.
Écoutez, merci de cette mobilisation, de votre écoute sur ce pays que je pense nous connaissons tous un peu mieux ce soir. Claude Vautrin sera à votre disposition en bas, dans la salle du bas, et il pourra dédicacer son livre si vous le désirez. Je vous remercie énormément de cette présence attentive que vous avez eue. Puis je vous dis peut-être à demain et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.